Chapitre 9. Festin. 11h45. Depuis 30 ans qu'il sirote son petit punch en terrasse, Christos a vu se métamorphoser Saint-Gilles. Certes, il n'a pas connu l'antique village de pêcheurs et le chemin de fer amenant de Saint-Denis les trains de Marie rejoindre femmes et enfants obsessionnellement blancs sous leurs ombrelles. Il a par contre vécu en direct les transformations des années 90, lorsque l'île croyait encore pouvoir ressembler un jour à sa grande sœur Maurice. Il a suivi la construction du port de plaisance moderne au cœur de la capitale touristique de La Réunion. L'idée n'était pas bête. La ravine Saint-Gilles ne rejoignait plus la mer depuis longtemps, sauf en cas de cyclone. Elle venait mourir au pied de la plage comme un égout fatigué, s'écroulant à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Les aménageurs ouvrirent l'océan sur la ville, compartimentant avec minutie la marina, port de plaisance, port de pêche, port de plongée. Éclairant l'ensemble d'un délire de couleurs, la peinture fraîche des barques de pêcheurs, le plastique jaune des chaises des restaurants, le bois riche de l'embarcadère de corail plongée et des autres clubs, le pastel des barques pour bambins du port miniature de Captain Marmaille, les toits roses de Notre-Dame de la Paix, le gris des passerelles sur la ravine stagnante, le blanc des cases qui mangent la colline aride, le tout dans un écrin de palmiers que les promoteurs eurent la bonne idée de ne pas couper. Du noir aussi. La hausse de l'immobilier oblige. Les créoles se sont réfugiés vers les hauts, dans le quartier Carrosse, mais descendent en masse sur le port pêcher des pescavals, sur les quais ou dans leurs canaux. Une réussite. Sauf que les concepteurs avaient sans doute rêvé d'une agora bruissante et bruyante de monde, pas de terrasse de bar quasi déserte. Sur ce plan-là, au moins, on ne peut pas reprocher à Christos de ne pas avoir fait d'effort. Avec Jean-Jacques et René, ils sont les seuls clients du bar de la marine. Vue imprenable sur les yachts et sur le cul de 20 pêcheurs à la ligne créole assis sur des glacières arc-en-ciel. Jean-Jacques s'en fiche, les yeux noyés dans le journal de l'île de la Réunion.
« Dis-nous, le Messie, toujours pas retrouvé la petite amie ?»
Christos trempe ses lèvres. Le rhum de la marine ne vaut pas celui de Gabin à la Lamanda, mais le panorama est incomparable.
« Confidentiel, les amis. »
Confidentiel mes fesses,
réplique René.
Pour une fois qu'il se passe quelque chose de ce côté-ci de la ravine.
Christos pousse sa chaise pour s'extraire de l'ombre du parasol.
Ou alors, faudra me faire boire.
Jean-Jacques, tout en versant sa bière dodo dans son verre, détaille la bouteille de rhum charrette sur la table, le bol et les glaçons, les pistaches, les samoussas. À volonté. On soigne d'autant plus les clients qu'ils sont rares.
Tout le malheur de l'île résumé dans une bouteille, déclame le créole. Rhum, abrutissement, violence, oisiveté.
Christos adore lorsque Jean-Jacques assène une vérité profonde. Jean-Jacques a un métier et une passion, joueur de pétanque et philosophe. Ou l'inverse peut-être. Christos ferme les yeux sous la morsure du soleil et ouvre les oreilles. 11h48. Dans les enrochements de la digue, à l'extrémité du port de Saint-Gilles, les vagues successives arrachent avec méthode des lambeaux de chair détrempés du cadavre. Puis, dans le mouvement inverse, on lave les plaies. La colonie de crabes rouges participe également à l'opération de nettoyage. Les plus fins s'introduisent dans le moindre orifice et vident le corps de l'intérieur, avant que les insectes nécrophages ne s'en chargent. Les plus gros s'occupent des parties superficielles les plus tendres. La bouche, les yeux, le pénis, les parties génitales. De nouveaux crabes affluent. Les anciens ne s'en offusquent pas. Le festin suffira à tous les rassasier. D'ordinaire, la population doit se contenter des miettes de mollusques morts. 11h49. René tourne sa casquette 974 autour de sa tête, comme si elle était fixée sur son crâne chauve par un pas de vis. Il détaille la charrette à bœuf sur l'étiquette du litre de rhum.
« J'aimerais pas mourir con, Jean-Jacques. Faudra que tu m'expliques le rapport entre le malheur de l'île et cette bouteille. »
Christos garde les paupières closes sans perdre une syllabe de la conversation.
c'est l'heure où Jean-Jacques devient poète. Le rapport, c'est l'exploitation du genre humain, mon pauvre René. Alcool et asservissement des masses laborieuses. Esclaves, affranchis, pauvres blancs, tous amants de la maîtresse canne, des millions de litres de rhum de mélasse, quand le prestigieux rhum agricole vogue vers la métropole. Alcool à volonté pour les damnés de la terre, vodka pour les Polonais dans les mines, tafia pour les créoles dans les champs, l'alcool des pauvres qui brûle les neurones révolutionnaires. Stéphano, le serveur de la marine, accoudé au comptoir, se sent le devoir d'intervenir.
« Eh oh, Jean-Jacques, le vendeur de tafia, il t'emmerde !»«
Moi, pareil !»
confirme René en levant son verre. René est un pêcheur. L'été, plutôt. Pêcheur au gros, pendant 20 ans à Saint-Pierre, avant que le prix de vente du poisson ne compense plus celui du gasoil du chalutier. René est alors parti s'installer à Saint-Gilles, pour vivre du tourisme. Son projet était d'amener les touristes voir les espadons, les dauphins, les requins, les baleines à bosse, loin, jusqu'au Kerguelen, s'il le fallait. Satisfait ou remboursé, c'était le concept. On ne payait que si on voyait les monstres des mers. On ne voyait rien, du moins c'est ce que les touristes racontaient en revenant. René était souvent trop saoul pour discuter. À la fin, il avait même ajouté les sirènes au programme de la croisière.
Tafia ou charrette, je m'en fous,
tranche René en vidant son rhum d'un trait.
Je bois à la santé du patrimoine culturel de l'île.
Jean-Jacques déguste sa bière à petites gorgées, comme pour les narguer.
Patrimoine culturel, mon cul.
11h54. Les crabes rouges attaquent maintenant avec ordre le cadavre. Telle une colonne de fourmis, ils s'organisent. La chair bleue, putréfiée. Flasque comme du papier mâché et déchiqueté par les plus forts. Les plus faibles se contentent d'assurer le transport. Les parties internes les plus savoureuses sont évacuées les premières. Boyaux, viscères, cerveaux, comme des meubles vidés par des déménageurs efficaces pour ne laisser qu'une carcasse creuse et légère. Les dizaines de crabes se figent soudain. Le cadavre a bougé. Les plus peureux ont déjà disparu sous les immenses rochers de la digue. D'autres, minuscules, sortent de la bouche, comme recrachés par un mort qui hoquette. Le corps se stabilise à nouveau. Les crabes observent avec méfiance l'objet qui a percuté le cadavre. Rond, lisse, froid. 11h56. Jean-Jacques brandit le journal de l'île de la Réunion comme une bible, au risque de basculer sur sa chaise de plastique.
Fermez les yeux et buvez tranquille, les amis. Alcoolisme, illettrisme, violence, c'est écrit noir sur blanc. La Réunion détient tous les records.
Christos ouvre les yeux, vide à son tour son verre, puis intervient enfin dans la conversation.
Ça fait quelques années qu'on a aboli l'esclavage, René. Si les Réunionnais picolent, c'est tout de même plus la faute des gros blancs.
Jean-Jacques se contorsionne, puis sort de sa poche une pile plate, sa flasque de rhum.
Et elle, pourquoi crois-tu que maîtresse Canne l'a inventée? 20 centilitres de rhum blanc dans les boutiques pour le même prix que 5 au comptoir.
Là, je te suis, Jean-Jacques,
hurle Stéphano du fond de son comptoir.
Le boire seul, c'est un fléau national. La fin des bars, un crime contre l'humanité.
René verse nerveusement une nouvelle rasade de rhum.
Et moi aussi je te suis, Jean-Jacques. Le patrimoine culturel de l'île, c'est le charrette 49 degrés et à la bouteille. Pas ce sirop en fiole limité à 40 par l'administration.
Christos se penche sur sa chaise de plastique. Il adore leur mauvaise foi. Il regarde le vent calme gonfler doucement les voiles des bateaux amarrés. Le soleil cuire le port. Le paradis. Le bonheur, 365 jours dans l'année. Il ignorait qu'un tel endroit puisse exister sur la Terre. Il suffit juste de survivre à un cyclone tous les 3 ans. 2 jours sous la couette. Supportable. Jean-Jacques n'a pas abdiqué. Il colle sous le nez de René la flasque de rhum.
Goûte, crétin, du 49 degrés. Il suffit d'un bag-in-box, 3 litres de charrette en plastique souple, avec robinet intégré, pour remplir soi-même sa pile plate. La dernière invention de la maîtresse Canne pour abrutir les foules.
Il se lève et mime les gestes d'un marionnettiste ivre.
Mes amis,
Deux fils tiennent les Réunionnais comme des pantins à la mondialisation libérale. Un dans chaque poche. La pile plate et le téléphone portable.
René tâte stupidement les poches de son jean.
Et je m'en fous, clame Jean-Jacques. Je m'en contrefous. Sur un terrain de boule, tant que tous les RMistes réunionnais suceront la flasque avant de pointer, je resterai meilleur tireur de Lille.
Comme pour ponctuer sa phrase, Jean-Jacques pointe sa dodo vers le ciel. René éclate de rire, pas convaincu. Il saisit à son tour son verre de rhum et l'avance vers la bière de Jean-Jacques, pour trinquer. Il s'essaye à l'accent provençal.
« Pêcheur, grand fada, on peut bien s'entendre !»
Jean-Jacques le regarde, désolé.
Ne me parle pas comme un bouliste marseillais, ça me...
Réfléchis, grand couillon, je te parle de réconcilier la canne et la bière.
Jean-Jacques fixe sa dodo sceptique. René triomphe.
Canne-bière, pêcheur, canne-bière!
Christos, dans un éclat de rire, rétablit par miracle l'équilibre de sa chaise. Jean-Jacques soupire. Limite vexé.
Putain, René!
Commente Stéphano tout en apportant un nouveau bol de samoussa.
Elle vient de loin, celle-là.
12h01.
Y'a un mort, Kevin! Putain, y'a un mort! Déconne pas, Ronaldo! Manne-toi de ramasser mon ballon et remonte! T'as 32 jongles à battre, alors joue pas la montre! Je déconne pas, Kevin! Y'a un macabé, je te dis, là sur les rochers, à moitié bouffé par les crabes!
12h05. Jean-Jacques a replongé le nez dans le journal de l'île de la Réunion, comme lassé des blagues de ses compagnons. René a basculé la tête vers les nuages qui recouvrent le sommet du Maïdo. Christos savoure. Il ne se lasse pas de cette ambiance de foire permanente. Comme le mélange festif des peuples sur la canne-bière, c'est un peu vrai. Sans la foule, mais avec le cagnard toute l'année. Christos ne pourrait plus supporter le froid. Rentrer le salon de jardin. Rentrer du bois, rentrer tout court. Des crétins de métropole lui demandent parfois si les saisons ne lui manquent pas, s'il n'en a pas assez du ciel bleu chaque matin, des feuilles qui ne tombent pas des arbres, du soleil qui se couche chaque jour à la même heure. Eux prétendent n'apprécier vraiment le printemps qu'après 3 mois de pluie, ne savourer vraiment les vacances que lorsque la voiture quitte le ciel gris pour le Mistral. Débile. Comme s'il fallait vieillir pour apprécier le temps qui passe. S'imposer une semaine de régime pour mieux apprécier un bon repas. Se priver pour mériter le plaisir. Vieille morale judéo-chrétienne, ou musulmane, ou bouddhiste. Christos se dit qu'il est peut-être une exception. En général, un Zoraï ne reste pas plus de 5 ans sur l'île. Il met de côté ses 53% de sursalaire de fonctionnaire, investit son pécule dans l'immobilier local pour ne pas payer d'impôts, merci Besson, Périssol, Girardin et les autres, puis Zou, direction la métropole pour acheter le pavillon de banlieue de ses rêves. Pour les gosses, qu'ils disent, les études. Bon, lui, c'est vrai, il n'a pas de gosses. Un deuxième classe créole de la brigade de Saint-Benoît lui a dit un jour qu'il lui faisait penser à Lucien Cordier, noiré, dans Coup de torchon. Sur le coup, Christos a fait la gueule. Puis il a réfléchi. Il ne faut pas se fier aux apparences. Noiré s'emmerde dans son village africain, observe la vie tropicale avec cynisme, massacre tous les cons. Lui, Christos, c'est tout l'inverse. Ici, il est heureux comme un bébé, comme un chat. Comme un fruit doré assez haut sur la branche pour ne pas être bouffé. Le troufillon de Saint-Benoît devait dire cela par jalousie, parce que là-bas, sur la côte dans le vent, ils se prennent jusqu'à 6 mètres de pluie par an. Le record du monde. Mais ici, à Zoraïland, pas une goutte. Tranquille jusqu'à la retraite, dans ce petit paradis appartenant à tous, et donc un peu à lui aussi, sur cette île déserte, jusqu'au XVIIe siècle. Pas d'indigène ici. Personne pour revendiquer la terre patrie, parce qu'il était là avant les autres. Juste des types et des femmes embarqués sur le même bateau ancré au beau milieu de l'océan Indien. Beaucoup de hiérarchie, bien sûr, comme sur un paquebot surpeuplé. De jalousie aussi, de mutinerie parfois, mais pas de racisme. Tous sur le même bateau, comme un labora. C'est à ce moment précis qu'il voit à travers ses lunettes de soleil les deux gamins qui courent vers lui. Ils agitent leurs mains comme des dingues.
Qu'est-ce qu'elles ont leurs mains ? Christos relève ses rébanes. Nom de Dieu ! Le premier gosse, le plus petit, celui qui flotte dans le maillot UNICEF du Barça, a l'air d'avoir croisé un fantôme. Le second, derrière lui, gueule à tue-tête.
« C'est Rodin ! C'est Rodin !»
Jean-Jacques bondit de sa chaise.
« Putain quoi, Rodin ?»
12h08. Christos court au bout de la digue essoufflé. Les deux gamins cavalent 5 mètres devant. Jean-Jacques s'époumonne derrière. René marche, titube plutôt.
« C'est là ! C'est là !»
La digue est interminable. C'est Rodin. Il faut 30 ans d'expérience à la brigade de Saint-Gilles pour pouvoir décoder le message. Christos avait lu une maxime dans un vieux livre d'images coloniales. Le créole est d'un naturel contemplatif. Rodin, c'est l'image du livre. Depuis toujours, Rodin passe ses journées à regarder l'horizon sur son rocher noir, au bout de la digue du port de Saint-Gilles, tournant le dos à l'île, au port, au bar, aux boîtes de nuit, au parking. Rien d'autre. Si tous les créoles sont philosophes, Rodin, c'est Diogène. Rodin est là. Il a basculé dans les rochers, 5 mètres plus bas. Si on se penche, on aperçoit son cadavre. Christos reprend son souffle. Le sous-lieutenant se dit qu'il va devoir descendre. Allez voir. Au cas où le créole serait seulement blessé. Il y a peu de chance. Les gamins le regardent avec insistance, comme s'il était Horatio Caine. Ils ne vont pas être déçus. Christos s'engage sur les blocs glissants de l'enrochement censé casser les vagues et protéger la digue de béton. Il progresse lentement. Les pierres sont gluantes d'algues. Ses pompes vernies dérapent. Pas équipé, Horatio. S'il avait su.
Alors, Christos !
S'inquiète René, hébété, là-haut. Alors quoi ? Minute ? Qu'est-ce qu'il espère ? Qu'il ressuscite Rodin par simple imposition des mains ? Christos gueule pour éloigner les crabes rouges. Tant pis pour les moins réactifs de ces saloperies de crustacés nécrophages. Leur carapace craque comme des feuilles mortes sous la semelle de sa chaussure. Le cadavre est allongé sur le ventre, les pieds tournés vers l'océan. Bien mort. Aucune trace de blessure. Christos a compris. Il déglutit. Il faut retourner le corps pour comprendre. Depuis le temps, Rodin avait le pied marin, collé au béton, telle une moule accrochée à son bouchot. Il n'est pas tombé sans qu'on le pousse. Il entend Jean-Jacques qui pleure là-haut, sur la digue. Rodin, c'était le modèle absolu, la quintessence de la sagesse créole. Christos évite de réfléchir davantage et empoigne le cadavre par la ceinture de son jean. Le corps est étonnamment léger. Coopératif, pour ainsi dire. Il offre au soleil son visage bouffé par les crabes. Merde. Christos rétablit de justesse son équilibre. Sa main s'enfonce dans l'espèce de corail mou qui semble cimenter les blocs de pierre. Manquait plus que ça. Rodin a un couteau planté dans le cœur. Le sous-lieutenant connecte. Même le plus obtus des gendarmes aurait fait le rapprochement. C'est un couteau solide. Propre. Seul le manche dépasse, genre ivoire, taillé dans la corne d'une bête qui ne broute pas chez eux. Christos s'approche. Il y a même la marque gravée dessus, comme pour mettre les points sur les i, au cas où le plus con des flics serait tombé sur Rodin. Maison du monde. Le genre de franchise bobo vendue partout sur la planète, mais dont il n'existe aucun magasin sur l'île. Christos tente de réfléchir le plus rapidement possible. Pourquoi tuer Rodin ? Il lève la tête vers la digue. Jean-Jacques chiale sur la poitrine de René. Le plus grand des mômes tient la main du plus petit, qui lui tient son ballon. Pourquoi tuer Rodin ? Pas pour le voler. Rodin était un type qui n'avait rien sur lui. Rien à lui, pas même une case où dormir. Christos se retourne, observe le chenal du port. Une hypothèse se forme, délirante, mais crédible. Et si Rodin avait tourné la tête, une fois dans sa vie, une seule. Un bruit dans son dos, un cri, un appel au secours. Juste un quart de coup, à peine une seconde. Un instant de rien du tout, comparé à une vie de contemplation. Et si Rodin avait été victime d'une malchance suprême, d'une de ces ironies cruelles dont s'amuse parfois la vie ?
tourner la tête rien qu'une fois. Mais au pire des moments.